On a une chronique des apatrides anonymes avec Mathieu. Est-ce que tu nous entends, Mathieu? On a toujours.
Oui. Yes! Bonjour, Gabriel.
Du premier coup, c'est la première fois que j'ai réussi à faire marcher le téléphone.
C'est toujours. C'est une technologie qui existe toujours.
D'alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde des immigrants et immigrantes au Canada cette semaine?
Ben beaucoup de choses, quelques sujets dont je vais vous parler dans les prochaines minutes. Ben premièrement, on vous parle souvent du gouvernement conservateur, du ministre Jason Kenney. C'est un peu inévitable parce qu'il est très très actif. C'est un activiste de la politique par rapport à l'immigration. Et dans ce cas-ci, ce dont je vais parler, c'est sur la citoyenneté aussi. C'est passé un peu en dessous du radar dans les dernières semaines, mais il y a un autre projet de loi privé d'un député obscur d'arrière-ban, le projet de loi C-425, qui concerne donc les personnes qui s'attaqueraient donc, qui feraient des actes contre les forces canadiennes, donc des actes de guerre, entre guillemets. Et là, M. Kenney a décidé de rallonger le projet de loi et de rajouter aussi des actes de terrorisme. C'est un peu sa lubie, évidemment. Donc, on parle ici de gens qui perdraient leur citoyenneté canadienne pour avoir été reconnus coupables de ces actes-là. Donc, projet de loi qui a été, d'ailleurs, j'étais un peu surpris, il y a 2 semaines, entériné par une majorité écrasante en première lecture. Là, il s'en va au comité parlementaire, on veut rajouter la question d'actes terroristes. Mais ce qui est quand même assez particulier, c'est que Jason Kenney est tellement convaincu de sa mission qu'il voulait en plus rajouter que tous les Canadiens qui sont nés ici, donc qui n'ont pas d'autre nationalité, pourraient aussi perdre leur citoyenneté. Donc, il créerait des apatrides. Donc.
Ça deviendrait des citoyens du monde.
Exactement, sans citoyenneté officielle. Évidemment, il s'est fait rappeler qu'il y a des conventions qui interdisent la création d'apatrides, même si on peut parler, entre autres, des Palestiniens ou de d'autres peuples qui, par la force de l'histoire, sont devenus apatrides. Mais disons qu'il a été là-dessus, mais il veut toujours faire perdre donc à des gens qui, par exemple, seraient nés ici, mais que leurs parents avaient une citoyenneté française ou argentine ou de n'importe quel pays, pourraient perdre leur citoyenneté canadienne puisqu'ils peuvent en avoir une autre et être expulsés. Donc, c'est vraiment assez intense. C'est surprenant que ça n'a pas été beaucoup parlé dans les médias. Donc, on parle ici, je répète, d'actes contre les forces armées canadiennes, par exemple, dans la foulée de ce qui peut se passer à l'international, ou des actes de terrorisme. Puis on est toujours dans le flou, dans la définition très, très large et très obscure. Donc, ben voilà, puis il a même rajouté que c'était pas si pire comme conséquence parce qu'à une certaine époque, c'était la peine de mort qui s'appliquait pour ces actes-là. Donc, c'est un peu toujours son genre d'humour ou dans tout cas de réflexion. Il y a, juste pour compléter là-dessus, il y a un citoyen d'origine allemande qui est né ici au Canada qui s'appelle Sean Reag, qui a écrit une bonne lettre ouverte dans le Toronto Star il y a 2 semaines là-dessus. En tout cas, lui, il est né au Canada, évidemment. Son père est d'origine allemande et qu'il ne parle ni allemand. Il n'a jamais vécu en Allemagne, mais que si on appliquait à la lettre ce nouveau projet de loi-là qui deviendrait loi, il pourrait être expulsé dans un pays qu'il n'a jamais connu, l'Allemagne. Et en plus, il dit que lui, comme militaire ou comme quelqu'un de progressiste, avait appuyé à l'époque la cause d'Abou Sian Abdelrazik. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a des gens qui avaient payé pour son billet d'avion pour son retour parce que le Canada refusait de le faire revenir, même s'il était citoyen canadien. Et les gens qui avaient contribué à ce billet d'avion-là avaient été menacés d'appui au terrorisme. Donc, on pourrait se retrouver dans des situations absurdes comme ça, où des gens pourraient être accusés d'appui au terrorisme, parce qu'on sait que les cours et les lois, c'est très, très large, la définition. Donc, quand on parle de financement, de ne pas dénoncer, on peut se retrouver dans des situations donc d'appui. Donc, c'est un exemple assez pratique des conséquences possibles de ce projet de loi-là, qui risque d'être adopté. Je me fie au vote en première lecture. Tous les partis au fédéral ont voté pour ce projet de loi-là. Donc, on est vraiment dans une chic époque.
Mais oui,
tout à fait. Sinon, comment ne pas parler aussi de la fameuse liste des pays sûrs? Pour rappeler aux gens, il y avait eu au mois de décembre une annonce de 27 pays dits sûrs, c'est-à-dire l'Union européenne au complet plus les États-Unis. Là, on en a rajouté au mois de février 8, dont le Mexique. Donc, ça a fait un petit peu, évidemment, les manchettes parce qu'on s'attendait à ce que le Mexique soit inclus éventuellement. Donc, les demandeurs d'asile qui viennent de pays sûrs ont beaucoup moins de droits que les autres demandeurs d'asile. Donc, ils n'ont pas de possibilité d'appel. Ils sont déportés beaucoup plus rapidement. Ils ont moins de temps pour se préparer. Et en tout cas, il y a plein de conséquences comme ça. Évidemment, sur les soins de santé aussi, qui sont remboursés ou pas, il y a toute une conséquence aussi. Mais là, donc, on est rendu avec 35 pays dits sûrs, dont les ressortissants donc, n'ont pas de raison, selon le ministère de l'Immigration, de demander une demande d'asile parce qu'ils viennent de démocratie reconnue. Dans la nouvelle liste, donc, il y a le Mexique, l'Islande, la Norvège, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon et Israël. Mais on exclut évidemment la bande de Gaza et la Cisjordanie. Donc, voilà pour le détail. Et peut-être dire aussi que dans le cas du Mexique, évidemment, ça a été assez critiqué avec tout ce qu'on sait, ce qui se passe au Mexique, la violence, les droits humains, etc. Mais dans un contexte économique et politique comme le nôtre, on est dans l'aléna avec le Mexique. et se faire qualifier de pays non sûr aurait été un petit peu mal vu. Et on précise même dans les articles que j'ai lus que ça aurait eu un impact sur le tourisme au Mexique parce que les gens, les Canadiens qui sont très nombreux sur les plages, se sentiraient un peu mal d'aller dans un pays qui est dit non sûr, donc dangereux. Donc voilà les raisons politiques, évidemment. Mais le Mexique, ça va toucher énormément. Pardon?
C'est pour se faire bronzer, c'est le fun?
Oui, évidemment. Et boire de l'alcool, donc. Mais ce qui est, ça va avoir des conséquences parce que le Mexique, les Mexicains et les Mexicaines sont très, très nombreux, nombreuses depuis quelques années à demander statut de réfugié au Canada. Il y a déjà eu la notion des visas qui a été, la politique des visas qui a été imposée pour les ralentir. Mais c'est un obstacle de plus pour les gens qui sont soit déjà ici ou qui sont en train de faire une demande ou des gens qui voudraient en faire une. Donc, on veut vraiment réduire le nombre de Mexicains. C'est une autre politique, on peut dire, de profilage ou qui vise un groupe en particulier. Donc, dans ce cas-ci. Aussi, peut-être dire rapidement que le fameux, on a beaucoup parlé en 2012, le programme de santé intérimaire pour les demandeurs d'asile, qui a été coupé par le fédéral en plein été. Beaucoup de groupes ont contesté un peu partout au Canada. La plupart des provinces ont décidé d'assumer les coûts en attendant que le fédéral revienne sur cette décision. On a estimé, au Radio-Canada disait que c'était à peu près 5 millions pour le Québec pour l'année 2013 que ça coûterait. Sur les autres provinces, c'est à peu près pareil au niveau proportionnellement à leur population. Mais là, il y a deux associations qui ont décidé de contester cette réforme-là en Cour fédérale, l'Association canadienne des avocats en droit des réfugiés et l'organisme Canadian Doctor for Refugee Care, qui contestent en vertu de trois articles de la Charte des droits ce programme-là, qui enfreint aussi, évidemment, plein de conventions internationales sur les réfugiés. Pour résumer rapidement, ben c'est ça, on a décidé à Ottawa de cesser de payer les soins de santé ou les médicaments des demandeurs d'asile refusés, ainsi que ceux provenant des pays sûrs, donc je viens d'en parler, à moins que leur situation ne menace la santé publique, évidemment. Et donc, pour ceux qui sont acceptés, le temps qu'ils deviennent, par exemple, résidents ou citoyens, on va payer seulement les soins d'urgence, mais pas les soins généraux comme les soins psychologiques ou les médicaments. Donc, ça avait été beaucoup médiatisé l'été dernier. Donc, il y a des groupes qui contestent. Et évidemment, Kenny, il faut quand même le citer parce que il prétend que ce recours est l'œuvre d'idéologues et de militants gauchistes. C'est texto ce qu'il a dit. Et même s'il y a plus de 20 organisations très sérieuses de médecins et d'avocats qui ont décidé de contester cette réforme-là. Et peut-être pour le citer aussi, le gouvernement, le droit et la responsabilité de déterminer qui va recevoir ces bénéfices, mais on n'a aucune obligation légale, morale ou politique à fournir des services aux faux demandeurs d'asile, demandeurs déboutés et les gens qui sont déclarés migrants illégaux. Donc, on a différentes notions ici qui s'affrontent, évidemment. Mais ce qui est un peu grave, aussi dans le contexte, entre autres, des demandes d'avoir des cités sans frontières, c'est qu'il y a plusieurs médecins qui sont confus un peu par rapport à ce qu'ils peuvent donner comme service aux réfugiés ou aux demandeurs, qui refusent à des gens qui auraient droit d'avoir des soins parce que c'est vraiment, ça n'a pas été clairement expliqué comme directive. Donc, c'est vraiment une autre situation déplorable. Et puis, en Cour fédérale, ça va prendre peut-être des années avant qu'il y ait un jugement là-dessus. Donc, en attendant, les provinces assument, mais les provinces ont dit qu'elles n'assumeraient peut-être pas si longtemps que ça. Donc, on peut être pris avec des gens qui auront pu des soins de base de rembourser. Puis, on parle de gens réfugiés, évidemment, qui n'ont pas le droit de travailler, par exemple, des choses comme ça. Donc, problématique. Il me resterait une dernière nouvelle, très locale,
ben oui,
très québécoise. C'est nos amis de la Fédération des Québécois de souche qui ont fait une petite activité le 23 février dernier. Ont décidé de distribuer un dépliant dans un quartier de Chicoutimi, au Saguenay, qui s'appelle « Les mythes entourant l'immigration », qui a été mis dans les boîtes aux lettres de centaines de personnes. Comme par hasard, c'est dans le quartier où habitent la plupart des étudiants étrangers à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et il y a un citoyen donc, qui en a ramassé un qui a alerté les médias. Et on parle ici de 15 énoncés sur l'immigration et des réponses. Et on parle entre autres pourquoi l'immigration n'est pas nécessaire au Canada, comment elle est nuisible à l'économie et à l'identité nationale, donc ce genre de discours-là. Et je suis allé sur leur site voir un peu c'était quoi leur idée à eux. Et ils ont appelé le 23 février la journée de conscientisation et une espèce de... J'ai retrouvé le fameux tract, là, c'est un mélange de plein de choses, c'est assez incroyable. Juste vous dire qu'ils mélangent à la fois la lutte contre l'assurance chômage, ils mélangent en disant que les conservateurs sont contre, les syndicats... les conservateurs la font, les syndicats sont contre, mais dans le fond, tout ces gens-là ne parlent jamais des politiques d'immigration et du multiculturalisme au fédéral. Et puis que là, ils mélangent le fait que des grandes chaînes de restauration rapide font venir des immigrants parce que personne ne veut travailler, mais que ces chaînes-là, dans le fond, ils créent une fausse demande, une fausse offre et tout et tout. Donc, c'est une espèce de rhétorique qu'on retrouve un peu en Europe dans les partis d'extrême droite. Et ils s'appuient sur une étude parmi des centaines qui a dit en 2005 qu'une hausse des taux d'immigration entraînerait une baisse des salaires moyens au Canada. Et ils reprennent les données de Statistique Canada en disant que le taux de chômage des immigrants est plus élevé que celui des Québécois et qu'un immigrant moyennement paye moins d'impôts qu'un Québécois de souche, c'est eux qui le précisent, mais en faisant exclusion évidemment du fait que les immigrants souvent ne travaillent pas parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus, parce qu'ils sont discriminés. Donc on est vraiment dans les idées faciles. Et on finit en disant que le mythe de l'immigration bénéfique, c'est un leurre. Et la Fédération des Québécois de souche signe son communiqué TRAC pour la préservation de notre peuple. Donc voilà, ça a passé un petit peu, bon, dans les médias où Saguenay, ça a été mentionné, mais c'est important que ce genre de groupe d'extrême droite-là, on parle de leur frasque, parce qu'ils risquent d'en avoir, malheureusement, de plus en plus. Et il faut le faire quand même, ils dénoncent quand même Stephen Harper aussi, qui est leur allié objectif. Donc, c'était à peu près ce que je voulais vous raconter aujourd'hui.
Parfait.
Pour la chronique.
Ben, je te remercie beaucoup, Mathieu.
Merci, Gabrielle.
Ça va conclure notre émission d'En profondeur.